Vous êtes sur RTL. RTL Midi,
le 12-30 avec Agnès Bonfillon.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. En ce vendredi 19 février, un taux d'incidence qui bat des records, des services de réanimation surchargés, les Alpes-Maritimes et notamment la ville de Nice inquiètent les autorités. Nous allons en discuter dans quelques instants avec notre invité Michel Carl, chef de service infectiologie au CHU de Nice justement. À partir de lundi, jour de rentrée scolaire à Lyon, menu unique dans les cantines et surtout sans viande. La mairie explique que c'est pour faciliter les gestes barrières. Le Covid a bon dos, répond l'opposition. Refuser de se faire vacciner est un motif de licenciement au Vatican. Le plus petit État au monde prend de nouvelles mesures dans la lutte contre le coronavirus. Elle parle d'emprise psychologique. Il réfute catégoriquement. Patrick Poivre d'Arvor est accusé de viol par une écrivaine. Les faits se seraient déroulés, selon elle, entre 2004 et 2009. Dans ce journal également, après Air France, c'est Renault qui enregistre des pertes gigantesques pour 2020. 8 milliards d'euros, le constructeur automobile qui était déjà fragilisé avant la crise sanitaire. Et puis si je vous dis la mer, une noix, boum, vous me dites, ou plutôt vous me chantez, du Charles Trenet, bien sûr. L'artiste est mort il y a 20 ans, jour pour jour. La météo, bonjour Valérie Quintan.
Bonjour.
C'est le printemps au Pays Basque.
Oui, mais alors carrément 21 degrés et du soleil. Bon, il y a un petit peu de vent, c'est ce qui pourrait un tout petit peu bousculer cette sensation printanière. Sinon, pour les autres, on s'en sort pas trop mal. On a un petit peu d'instabilité cet après-midi sur la pointe bretonne, des entrées maritimes également dans le golfe du Lion. Sinon, partout de très belles éclaircies et des températures qui sont quand même globalement assez douces. 13 degrés à Paris et Strasbourg aujourd'hui, 14 à Tours, 16 à Grenoble, 17 degrés à Ajaccio et 18 degrés à Auch.
Merci beaucoup Valérie. La question du jour, les personnes âgées et fragiles doivent-elles s'auto-isoler? On attend vos appels évidemment au 3210. Bonjour Pascal Pro.
Bonjour, ces personnes ne chanteront pas, il y a de la joie en vous écoutant bien évidemment. Ça sera l'un des sujets du jour. L'autre sujet, vous l'avez dit, la mairie écologiste de Lyon qui va imposer un menu unique sans viande. Nous pourrons également évoquer est-ce qu'il faut permettre aux politiques qui nous gouvernent ou à ceux qui pourraient nous gouverner de se faire vacciner contre la Covid-19. Ça, c'est un bon sujet, c'est dit. C'est une suggestion de Patrick Mignola, président du groupe Modem à l'Assemblée nationale. Il dit un président de la République, un Premier ministre, ce n'est pas une personne comme les autres. La justice a ouvert une enquête sur les accusations de viol contre Patrick Poivre d'Arvor. Et là encore, vous pourrez réagir. Et puis, les joueurs de Ligue 1 doivent-ils baisser leur salaire? C'est le président de Lyon, Jean-Michel Aulas, qui a proposé à ses joueurs une réduction de 25% de leur rémunération. Vous le voyez, beaucoup de sujets, sans oublier Charles Trenet.
À tout à l'heure, Pascal.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Ce n'est pas par hasard qu'Olivier Véran a décidé de se rendre demain à Nice. Hier, le ministre de la Santé a fait part de sa préoccupation concernant la ville. Bonjour Mickaël Lefebvre.
Bonjour.
Vous êtes sur place pour RTL. Le nombre de cas flambe là-bas. Le taux d'incidence est beaucoup plus important que la moyenne.
Oui, avec 751 cas pour 100 000 habitants, le taux d'incidence déjà très élevé a explosé à Nice ces 6 derniers jours. 95% des lits Covid sont occupés en réanimation. Le professeur Carole Hichet est la chef du service au CHU de Nice.
La situation sur Nice et sur les Alpes-Maritimes est inquiétante et très préoccupante puisqu'on a une contagiosité qui est extrêmement importante et surtout un afflux d'hospitalisation, que ce soit en hospitalisation conventionnelle ou sur les soins critiques réanimation. On n'est pas du tout sur un plateau. Ça ne baisse pas du tout, ça augmente.
Une flambée de cas positifs constatée dans certains quartiers populaires de la ville, mais aussi dans le centre. Les personnes âgées de 20 à 40 ans sont aujourd'hui les plus touchées. Et si le taux est en baisse chez les plus de 75 ans, le nombre de personnes vaccinées dans le département est encore insuffisant, selon le professeur Hichet.
Clairement pas assez. Il faudrait une distribution qui soit appropriée quand même à la situation des régions et des départements, parce que c'est pas tout à fait normal qu'on vaccine à la même vitesse la région qui est la plus durement touchée et les autres.
C'est d'ailleurs l'un des points que devra éclaircir demain Olivier Véran à l'occasion de sa visite à Nice.
Nous sommes justement en ligne avec le professeur Michel Carl, chef de service infectiologie au CHU de Nice. Bonjour monsieur.
Oui, bonjour.
Situation préoccupante, nous venons de l'entendre. Comment cela se traduit-il dans les hôpitaux ?
Écoutez, ça se traduit avec une tension importante sur les capacités d'accueil dans les hôpitaux. Alors, essaye de d'y pallier par l'ouverture de nouvelles unités, ce qui est fait à la fois sur le CHU et à la fois dans l'ensemble des hôpitaux des Alpes-Maritimes pour pouvoir proposer des solutions à tous les patients.
Est-ce que la situation est tenable ?
Oui, la situation elle est tenable. Après, il faut qu'on arrive à s'organiser. On est en train de le faire avec des nouveaux plateaux techniques pour permettre l'oxygénation des patients, puisque comme vous le savez, la principale détresse que subissent ces patients, c'est un manque d'oxygène. Il faut avoir donc les capacités de répondre à tous ces besoins.
Et est-ce que vous êtes en train justement de vous organiser entre les différents hôpitaux, ne serait-ce que des Alpes-Maritimes ?
Alors, on a mis en place depuis plusieurs mois des contacts entre les différents établissements pour pouvoir justement orienter. Pour ma part, je suis responsable de la régulation par l'ARS de la régulation des lits d'hospitalisation sur l'ensemble des Alpes-Maritimes, ce qui nous permet de rechercher les places et de positionner les patients qui ne sont pas toujours proches de leur domicile, mais qui vont tous trouver un lit d'accueil.
Est-ce que vous arrivez à avancer quelques explications, professeur, concernant cette envolée ?
Ben écoutez, non, c'est très multifactoriel. On peut faire des suppositions sur un certain nombre de facteurs. La circulation virale étant liée à la circulation des humains et la situation dans la région italienne proche de la frontière étant aussi préoccupante, on peut imaginer que, en particulier, la circulation des personnes est une des explications. La promiscuité sociale en est une autre, en particulier dans les quartiers moins favorisés. Et il y en a plusieurs sur Nice est aussi un facteur de contamination. Et puis les contaminations intrafamiliales, comme l'Institut Pasteur l'a rappelé, est également un des facteurs.
On l'a entendu, Olivier Véran sera sur place demain, fera peut-être des annonces. Est-ce que selon vous, il faut prendre certaines mesures, peut-être élargir la vaccination assez vite dans les Alpes-Maritimes ?
Alors, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il faut jouer, évidemment. Il y a la prévention, et la prévention, ça passe à la fois par renforcer les mesures barrières et sensibiliser la population sur le maintien de ces mesures barrières que la vaccination ne doit pas empêcher ou limiter. Il faut vraiment qu'il y ait toujours des actions répétées, pédagogiques par rapport à ça. Il faut aussi renforcer la vaccination et effectivement, on a besoin d'accélérer la campagne vaccinale. C'est absolument crucial. Il faut noter par exemple que sur le CHU de Nice, on a vacciné plus de 80% des personnels de plus de 55 ans, mais il faut encore accélérer cette campagne de vaccination. Et puis d'autre part, il faut donner plus de moyens au système de santé pour répondre aux enjeux auxquels on est confronté dans la région, ce qui peut passer par faire appel à la réserve sanitaire, ce qui peut passer par mobiliser les ressources des écoles de soignants pour venir aider le système de soins à répondre.
Merci infiniment, professeur Michel Carle, d'avoir été l'invité de RTL Midi. Je rappelle que vous êtes le chef du service infectiologie au CHU de Nice. Dans le contexte actuel des gestes barrières, la mairie de Lyon va mettre en place, dès la rentrée des vacances de février, c'est-à-dire lundi, un menu unique, sans viande, dans les cantines scolaires. Cela permettrait, selon elle, de servir plus rapidement les élèves. Cela fait partie en tout cas des arguments avancés par le conseil municipal. Argument qui ne passe pas du tout auprès de l'opposition, Bertrand Frachon.
Plus de viande à la cantine. Pour Stéphanie Léger, adjointe à l'éducation à Lyon, il s'agit d'abord d'une décision liée au protocole sanitaire Covid pour fluidifier les passages au restaurant scolaire en proposant un menu unique.
Aujourd'hui, il y a deux types de menus à Lyon. Un menu avec viande et un menu sans viande. Et pour que tous les enfants puissent manger, effectivement, c'est le menu sans viande. Là, on peut toucher tous les enfants. Et c'est pour ça qu'on a choisi celui-là.
Et pourquoi pas celui avec la viande ?
Parce qu'il y a des enfants qui ne mangent pas de viande. Donc, en choisissant le menu avec viande, on aurait exclu de fait certains élèves inscrits déjà à la restauration scolaire.
Mais pour Pierre Oliver, maire d'opposition LR du 2e arrondissement, l'argument ne tient pas.
À partir du moment où on nous explique qu'il y a du poisson, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas de viande. Donc de ce point de vue-là, l'argument semble un petit peu léger. Encore une fois, je pense que la période n'est pas facile pour tout le monde et je pense qu'il y a certaines familles et certains enfants qui ont besoin de ces protéines-là. Donc il est nécessaire, de notre point de vue, d'offrir de la viande aux petits écoles. Écoliers lyonnais.
Selon la mairie, la cantine sans viande ne serait que provisoire. La situation sera réexaminée d'ici les vacances de Pâques.
Bertrand Frachon à Lyon pour RTL. Une dizaine de députés de la majorité demandent à Jean Castex de sortir de l'état d'urgence. Ces élus ont écrit au Premier ministre hier. Il rappelle, Marie-Bénédicte Allaire, qu'un état d'exception ne saurait devenir la règle.
Oui, car l'état d'urgence en cours depuis un an concentre le pouvoir aux mains de l'exécutif. Il n'a pas besoin de vote du Parlement pour imposer le couvre-feu ou le confinement. C'est supportable de manière exceptionnelle, moins sur la durée, et ça porte un coup aux libertés publiques. Il faut donc dès maintenant réfléchir à un meilleur encadrement de l'état d'urgence, estiment ces marcheurs, dont Jacques Maire.
Au bout d'un an, il faut quand même préparer la sortie. Je pense qu'on va vivre encore dans une certaine durée avec le risque du Covid, et que la fin de la crise, elle sera progressive. Donc à un moment, il faut se dire comment est-ce qu'on continue la gestion de la crise avec des mesures efficaces, mais en rentrant dans le droit commun.
Par exemple, l'article 16 de la Constitution qui donne les pleins pouvoirs au président est beaucoup plus encadré, avec une durée limitée à 30 jours. Alors, réfléchir, et pourquoi pas, en cas de consensus, modifier la Constitution. Ce n'est pas la première fois que ce type d'alarme se manifeste chez les marcheurs, jusqu'ici sans grand succès.
Merci beaucoup Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. 5000 spectateurs assis pour du métal, ce n'est pas possible. Une deuxième annulation du Hellfest semble inéluctable selon son patron. Hier, vous le savez, le ministère de la Culture a fixé des conditions pour la tenue des festivals cet été, conditions que certains organisateurs ne se voient pas donc du tout pouvoir respecter. À moins d'une raison de santé avérée, tout les employés et résidents du Vatican ont l'obligation de se faire vacciner. Ceux qui refusent de le nier risquent tout simplement le licenciement.
Dans le plus petit état du monde, qui compte 5000 salariés, on ne badine pas avec la sécurité sanitaire. Le gouvernorat, dont dépendent les services administratifs, a pris une série de mesures pour garantir la santé publique en cas de pandémie. L'absence de port du masque, le non-respect de la distanciation physique et la violation de la quarantaine peuvent faire l'objet d'amendes allant de 25 à 1500 euros. Mais la sanction la plus extrême, c'est le licenciement. Il est prévu pour tout employé ne présentant pas de contre-indication médicale, mais refusant d'être vacciné contre la Covid-19. Et un licenciement peut tomber comme un couperet. Les personnes travaillant au Vatican doivent être vaccinées uniquement dans un espace ouvert depuis la mi-janvier, à l'ombre de la coupole de Saint-Pierre.
Anne Lenir à Rome pour RTL. On fait une pause et dans un instant, PPDA accusé de viol. L'ancien présentateur vedette dément formellement. La jeune femme qui a déposé plainte, elle, parle d'emprise psychologique.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Agnès Bonfillon.
Il est 12h44 sur RTL. Patrick Poivre d'Arvor accusé de viol. Une enquête est ouverte. C'est une écrivaine âgée aujourd'hui de 37 ans qui affirme que l'ancien présentateur du 20h a abusé d'elle à plusieurs reprises entre 2004 et 2009. Florence Porcel parle d'emprise psychologique, Alice Moreno.
Oui, leur toute première rencontre remonterait à 2004. La jeune femme a 21 ans, elle est en convalescence d'une tumeur au cerveau. Apprentie écrivaine, elle admire, dit-elle, le travail de Patrick Poivre d'Arvor. Lui adresse un courrier, lui demande un avis sur ses propres écrits. Il l'aurait invitée à assister au JT de 20h. Après le journal, elle se serait retrouvée seule dans le bureau de Poivre d'Arvor. C'est là que le journaliste l'aurait violée. C'est en tout cas ce qu'elle décrit dans sa plainte déposée auprès du parquet de Nanterre, que nous confirme une source proche du dossier. Les échanges entre la jeune femme et le journaliste de 36 ans, son aîné, se poursuivent pendant plusieurs années. Elle dit même avoir eu une relation sexuelle consentie avec lui. En 2009, alors que leurs contacts sont moins réguliers, Florence Porcel le revoit, lui demande de l'aide pour rédiger son mémoire. C'est lors de ce rendez-vous qu'il l'aurait forcé pour la deuxième fois, lui aurait imposé une fellation. Le mis en cause dément formellement, dénonce des calomnies. Patrick Poivre d'Arvor qui se dit prêt à être entendu par les enquêteurs.
Merci Alice Moreno du service police-justice de RTL. Les trois enfants d'Émilie Koenig rapatriés en France il y a un mois maintenant. Émilie Koenig, rappelons-le, c'est une jeune femme partie il y a 9 ans en Syrie faire le djihad. Elle est soupçonnée depuis d'avoir mis en place un système de recrutement pour le califat. Détenue depuis 3 ans dans un camp contrôlé par les Kurdes, la Lorientaise demandait à ce que ses jumelles et son petit garçon de 4 et 6 ans soient ramenés en Bretagne. Son avocat, maître Emmanuel Daoud, confirme que c'est bien le cas.
Je vous le confirme, il faisait partie des enfants qui ont été rapatriés le 13 janvier. Nous n'en avons été informés que 2 ou 3 semaines après. Aucune information ne nous avait été donnée ni à la grand-mère ni à l'avocat, ce qui est un peu surprenant, pour ne pas dire inhumain, parce que je ne vois pas pourquoi Une grand-mère ne peut pas être informée que ses petits-enfants sont enfin arrivés sur le territoire français. Les trois enfants ont été rapatriés à la demande de Madame Émilie Koenig, compte tenu de l'état de santé de ses deux jumelles et en particulier de l'une d'entre elles qui souffrait de troubles respiratoires particulièrement graves, à tel point qu'elle craignait pour sa vie. Et elle a donc été amenée à faire un choix terrible pour une maman, se séparer de ses enfants, en tout cas demander à ce qu'ils soient rapatriés en France. Et de ce point de vue-là, elle a été entendue.
Maître Emmanuel Daoud, joint par Thomas Proutot pour RTL. Une nouvelle battue doit débuter dans quelques instants près de Rennes. Aujourd'hui, cela fait 9 jours pile que Magali Blandin n'a plus donné signe de vie. Cette mère de famille de 42 ans a été vue pour la dernière fois sur son lieu de travail et depuis donc plus rien. Nicolas Bobby, vous êtes dans sa ville à Montfort-sur-Meux. Pour certains habitants, il y a un sentiment d'angoisse qui commence à monter.
Absolument, l'inquiétude grandit, ce n'est pas la psychose totale, mais tout le monde se pose des questions.
C'est vrai que ça fait un peu peur, après je me suis déjà fait suivre à Montfort-sur-Meux, donc c'est vrai que c'est un peu flippant. Mais oui, ça fait un peu paniquer, surtout qu'ils cherchent vraiment un corps, ça se voit, ils vont dans la rivière, ils cherchent dans les forêts. C'est une femme en plein divorce, qui a quand même 42 ans, qui sait ce qu'elle fait de sa vie, donc après c'est très probable qu'elle ait pu disparaître de son plein gré, mais laisser ses enfants derrière elle, c'est un peu limite. C'est vrai que ça met des doutes.
Magali avait emménagé il y a 2 mois, dans son quartier, près d'un cours d'eau, elle était inconnue.
Je ne l'ai jamais vue. On ne sait pas si elle est décédée, si elle est encore vivante dans un coin, quelque part par là. Peur, non, j'ai pas peur. Ce que je me suis laissé dire, c'est qu'elle aimait randonner. Et après, je me dis non, elle n'a pas pu partir randonner. Apparemment, elle avait des chaussures de ville aux pieds.
Et ce jour-là, il neigeait 5 bons centimètres de poudreuse. Une nouvelle battue avec 150 gendarmes va débuter dans quelques minutes, avec en renfort, plongeurs, chiens Saint-Hubert et hélicoptères. La section de recherche de Rennes enquête.
Le reportage de Nicolas Bobby en Bretagne pour RTL. On met une pause et dans un instant, plongeon historique pour le constructeur automobile Renault. 8 milliards d'euros de pertes en 2020.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Agnès Bonfillon.
Des ventes plombées par la crise sanitaire sont grosse surprise. Le constructeur automobile Renault enregistre également une grosse perte de son chiffre d'affaires. Une perte historique de près de 8 milliards d'euros. Éric Vanier, sachant que le groupe Renault-Nissan était déjà très fragilisé.
Oui, Renault en fait a plongé dans le rouge dès 2019, c'est-à-dire avant l'arrivée du coronavirus, faute notamment d'avoir renouvelé assez vite ses modèles. Et la crise sanitaire qui a surgi début 2020 n'a fait qu'accélérer, amplifier les difficultés du groupe. Au printemps, les usines ont ralenti, les concessionnaires fermés, les automobilistes plus tentés par l'épargne que l'achat d'un nouveau véhicule. Nissan, qui jusque-là dopait les finances du groupe, s'est à son tour effondré. Et au final donc, un trou béant de 8 milliards d'euros. Mais tout n'est pas perdu. C'est au premier semestre que les pertes se sont accumulées. Le deuxième semestre a été bien meilleur. Et le plan de redressement du nouveau directeur général, l'Italien Luca De Meo, vient de se mettre en place.
Et le plan qu'on a annoncé, c'est qu'à la fin de 2023, avec la nouvelle gamme de produits, avec la nouvelle politique commerciale, avec le travail qu'on va faire sur les coûts, l'idée, c'est qu'il n'y aura aucun marché qui perd de l'argent. Ça, c'est le but qu'on se donne et on pense que c'est faisable.
Avec au plan commercial sur la période un programme ambitieux, le lancement de 14 nouveaux modèles, dont la moitié en mode électrique, le point fort et plein d'avenir de Renault.
Les précisions d'Éric Vanier pour RTL. Les mousquetaires au tribunal. Intermarché est assigné devant le tribunal de commerce de Paris pour pratiques commerciales abusives. En fait, Christophe Ponzio, Bercy reproche au groupe de grande distribution de faire pression sur ses fournisseurs.
Exactement, pression présumée via la centrale d'achat internationale des mousquetaires, AGCOR, qui contournerait ainsi les lois françaises des négociations commerciales, ce qui est illégal, rappelle le ministère de l'économie. Le but de la manœuvre serait ainsi de payer moins cher aux producteurs les produits achetés et de faire baisser les prix en supermarché. En tout, 93 fournisseurs d'Intermarché auraient donc fait les frais de ces pratiques abusives, selon la répression des fraudes, des pratiques comme des menaces d'arrêt de commande ou de retrait de produits des rayons si les clients de l'enseigne ne passent pas par cette fameuse centrale internationale. C'est une sorte de ticket d'entrée, si vous voulez, pour négocier avec Intermarché sans contrepartie réelle, estime la DGCCRF. Résultat, les montants empochés sont indus aux yeux de Bercy, qui demande une sanction exemplaire, 150 millions d'euros, soit 1% du chiffre d'affaires réalisé par Intermarché en France. Contacté par RTL, le distributeur prend donc acte de cette assignation, conteste le caractère illégal de ces pratiques et considère que les négociations menées par l'enseigne se font au service de la défense du pouvoir d'achat des consommateurs.
Merci Christophe Ponzio du service économique et social de RTL. Dans moins d'une heure maintenant débute la seconde manche du géant homme aux mondiaux de ski alpin en Italie et le grand favori s'appelle Alexis Pinturo. À l'issue de la première manche, le Français est largement en tête du classement. Écoutez-le plutôt, très satisfait évidemment ce matin après sa descente.
J'ai vraiment essayé d'attaquer. Je pense que c'était pas forcément facile dans les premiers dossards. C'était très très glacé pour nous au début. Mais malgré tout, très bien passé. J'ai vraiment essayé d'attaquer, essayé d'être juste en même temps. J'ai réussi à trouver un bon compromis, donc c'était plutôt très bien.
Alexis Pinturo répondait à nos confrères d'Eurosport. Sachez que s'il remporte tout à l'heure la deuxième manche, il deviendra le premier champion du monde français en géant depuis Jean-Claude Killy. C'était en 1968. À l'Open d'Australie, ça y est, on connaît l'affiche de la finale, messieurs. Le russe Medvedev a surclassé le grec Tsitsipas en 3-7 ce matin, 6-4, 6-2, 7-5. Et on retrouvera donc le Serbe et le numéro 1 mondial Novak Djokovic dimanche face au russe Medvedev. Le football, pas sûr que le prochain Euro puisse se faire avec Corentin Tolisso. Le milieu de terrain français qui joue au Bayern Munich s'est gravement blessé à l'entraînement hier. Il a été opéré ce matin après la rupture d'un tendon. Et il devrait, selon nos confrères de l'équipe, être absent 3 mois au grand minimum.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Je chante soir et matin, je chante sur mon chemin.
Cela fait 20 ans, jour pour jour, que le fou chantant s'est tu. Charles Trenet avait 87 ans. De nombreux admirateurs viennent se recueillir sur sa tombe au cimetière de Narbonne depuis. Narbonne, ville de son enfance, dans laquelle il est possible de visiter notamment sa maison natale, Patrick Tégéraud.
Fidèle. La maison au volet vert est au 13 de l'avenue Charles Trenet. Mireille Franck est la responsable du patrimoine à Narbonne et pour présenter la maison, elle cite le poète.
Et comme il y a des gens qui vont faire des cures de silence, moi je vais dans cette maison faire des cures de bruit et retrouver le sommeil de mon enfance lorsque ma mère venait me border. Et c'est une... Voilà, vous voyez, on entend le petit klaxon du train. Lorsqu'il revient dans cette maison, il retrouve les odeurs, il retrouve des meubles qui craquent, des planchers. Donc tout un environnement qui va être à la source de son inspiration pendant toute sa vie.
Au deuxième étage, l'appartement privé de Charles Trenet aux couleurs vives.
Les canapés sont rouges, les moquettes rouge, il y a du vert, donc c'est vraiment l'appartement de Charles Trenet, donc on est dans un appartement qui est resté dans son jus, oui.
Chaque pièce a son histoire, sa chanson. Georges Petit est l'un des derniers Narbonnais à avoir bien connu le poète. Il a été son coiffeur, mais aussi et surtout son ami. Et il en a gardé un souvenir extraordinaire.
D'un homme tout à fait simple, tout à fait aimable, très respectueux des gens qui étaient dans le salon. Alors il me disait, tu vois Georges, un jour j'ai eu 40 ans et je les ai gardés. Et il s'amusait comme un gosse.
Et quand il entre dans la maison au volet vert,
il y a toujours un pincement au cœur, parce qu'il me semble que je l'aperçois là, qu'il arrive, sa maman qui vient m'embrasser. C'est bon d'en reparler, parce que comme ça, il ne meurt pas, parce que moi, traîner, il n'est pas mort, hein, pour moi.
Longtemps, après
le reportage de Patrick Tégéraud à Narbonne pour RTL. On retrouve en notre fou chantant, oh. Pascal Praud. Ah aussi, vous chantiez tout à l'heure, je vous ai vu.
C'est vrai. Déjà, ça, quand vous m'avez dit traîner mort il y a 20 ans, je me suis dit, c'est incroyable. Quoi, le temps passe
vite.
À une vitesse folle. C'est assez banal ce que je vous dis là.
Qu'avez-vous retenu dans l'actualité, cher Pascal ?
C'est extraordinaire quand même. La mairie écologiste de Lyon qui impose donc un menu unique sans viande. Mais la raison... C'est le Covid. Alors, j'ai toujours pas compris quel est le rapport entre le Covid et le menu unique sans viande. Sauf qu'il y aura un menu unique et que pour aller plus vite, pour fluidifier les files d'attente, on fait un menu unique. Et dans ce menu unique, on met pas de viande. Donc, c'est une manière d'enlever la viande. Idéologie quand tu nous tiens. Nous sommes d'accord.
C'est ce que dit l'opposition, en tout cas.
C'est très étrange, quand même, de justifier de cette manière-là. Mais vous pourrez réagir. On pourra également évoquer Ce sujet, faut-il permettre aux politiques qui nous gouvernent ou à ceux qui pourraient nous gouverner de se faire vacciner contre la Covid-19? C'est Patrick Mignola qui dit ça. Il dit « Je ne serais pas choqué que Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou encore Yannick Jadot soient vaccinés. Il y en a marre de l'égalitarisme. Un Premier ministre, dit-il, ou un président de l'Assemblée, c'est pas un Français comme les autres. » Vous pourrez nous donner votre avis là-dessus. Les personnes âgées et fragiles doivent-elles s'auto-isoler? C'est une question. Patrick Poivre d'Arvor, évidemment, si vous voulez réagir, c'est aussi une autre question. Et puis, les joueurs de Ligue 1 doivent-ils baisser leur salaire? Ça, c'est assez intéressant. C'est le président de Lyon, Jean-Michel Aulas, qui a proposé à ses joueurs une réduction de 25% de la rémunération pour les salaires supérieurs à 50 000 euros par mois.
La météo, c'est avec vous Valérie Quintin. C'est pas encore tout à fait ça au nord de la Seine. Hein.
Non, c'est mieux, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de grisailles qui s'accrochent. Ce sera le cas tout l'après-midi. On va même avoir quelques petites pluies sur la pointe bretonne. Et de l'autre côté du pays, entre le Roussillon et la Provence, là c'est pareil. On a pas mal de nuages aussi, mais sans précipitation de ce côté-là. Partout ailleurs, c'est du grand et beau soleil avec des températures limites printanières. 19 degrés attendus à Tarbes cet après-midi, 18 à Clermont-Ferrand. Il fera 14 degrés à Mulhouse et Perpignan, 13 à Paris, 12 à Caen et 10 à Lille.
Et en revanche, ce week-end, très très beau week-end.
Ah mais super week-end. Demain, notamment, il faut tout miser sur la journée de demain avec un temps ensoleillé partout. Un petit peu d'instabilité toujours en Roussillon et sur la pointe bretonne sous la forme de quelques averses. Des températures franchement très très douces demain. 13 à 24 degrés l'après-midi entre Brest et Biarritz. 18 à Paris, à Limoges, à Grenoble. Dimanche, on va avoir un petit peu moins de soleil. Les nuages seront un petit peu plus nombreux. On aura du gros temps en Roussillon avec des pluies fortes et des vents assez forts également. Toujours de l'instabilité sur la pointe bretonne et des températures qui vont baisser un peu, mais avec une moyenne tout à fait honorable de 16 degrés pour la moitié nord et 17 pour la moitié sud.
Merci beaucoup Valérie Quintin. Dans un instant, il sera 13h sur RTL.
Il est 13h.
Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
La mairie écologiste de Lyon qui impose un menu unique sans viande. Élodie est avec nous, elle habite Douai. Bonjour Élodie.
Bonjour Pascal.
Vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas?
Plutôt non, que ce soit d'un point de vue professionnel, puisque je suis enseignante en éducation prioritaire, ou d'un point de vue personnel.
On en parle dans une seconde. Le rappel des titres avec Agnès.
Depuis quelques minutes, nouvelle battue organisée pour tenter de retrouver Magali Blandin en Bretagne. La mère de famille est portée disparue depuis 9 jours maintenant. Les recherches ont lieu dans le secteur de Montfort-sur-Meux, près de Rennes. Bercy réclame 150 millions d'euros à Intermarché. Le géant de la distribution est accusé de pratiques commerciales abusives. Il devra s'expliquer devant le tribunal de commerce. C'est historique pour le constructeur automobile. Renault enregistre une perte de 8 milliards d'euros. Les ventes de voitures ont évidemment chuté en 2020. En Grande-Bretagne, les chauffeurs Uber devraient bientôt avoir droit à un salaire minimum ou encore à des congés payés. En tout cas, la Cour suprême britannique fait savoir que les conducteurs inscrits sur cette plateforme doivent être considérés comme des employés à part entière. Et puis en tennis, Medvedev, Djokovic, voilà l'affiche de la finale de l'Open d'Australie dimanche, puisque le Russe l'a emporté ce matin face à Tsitsipas en 3-7.